Universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 8 mai, en direct du studio 13 à Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Au sommaire ce soir, Kinshasa, la capitale congolaise, trop souvent plongée dans le noir.
Vous faites tout un mois, le courant vient pendant 3 ou 4 jours, mais à la fin du mois, vous payez la facture comme il faut.
Au Burundi, les assises de la presse ont permis de renouer le dialogue avec le gouvernement.
C'était une occasion, en fait, non seulement de décrisper la situation, mais aussi de jeter un regard rétrospectif sur la façon dont les médias travaillent.
Retour aussi ce soir sur le syndrome respiratoire du Moyen-Orient et les bisbilles entre le sultan de Brunei et les célébrités d'Hollywood. Ne manquez pas en fin d'émission les sports, suite des play-offs dans le championnat de basket NBA et Roger Muntou. Mais avant, le journal.
Un légionnaire français a été tué hier soir dans le nord-est du Mali. Le véhicule à bord duquel il se trouvait a sauté sur un engin explosif. Comme nous l'explique Idriss Fall.
La mort du sergent Marcel Kalafout, âgé de 25 ans, porte à 8 le nombre de soldats français tués au Mali depuis le lancement de l'opération Serval en janvier 2013. Selon un communiqué de l'Élysée, le sergent Kalafout a été tué hier soir dans le massif de Tekharkar et 2 autres soldats ont été blessés. Leur véhicule a sauté sur une mine où un engin explosif improvisé à une vingtaine de kilomètres à l'est de Tessalit. D'après l'état-major français, l'explosion n'a pas été suivie de combats au sol. Peu avant la mort de ce légionnaire, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, avait indiqué que l'opération Serval au Mali était en train de terminer sa phase de guerre frontale contre les groupes djihadistes. Il a précisé que 1000 soldats français allaient être concentrés près de Gao et 3000 autres dans la bande sahélo-saharienne. Jean-Yves Le Drian effectue à partir de demain vendredi jusqu'à lundi une visite en Côte d'Ivoire et au Sénégal pour discuter notamment de la réorganisation du dispositif militaire français dans la région.
7 candidats sont sur la ligne de départ pour la présidentielle mauritanienne du 21 juin. Le grand favori du scrutin demeure le président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, comme nous l'explique Issa Napon.
Le président Abdelaziz, qui se représente pour le compte de l'Union pour la République, va retrouver le député Ibrahima Mokhtar Sarr, 65 ans, un ancien challenger qu'il avait déjà battu à la présidentielle de 2009. Cet ancien journaliste est, avec Boadiel Ould Oumed, ex-ministre du régime Ould Taïa, l'un des 2 candidats de l'opposition modérée. En course également, 4 candidats indépendants, parmi lesquels l'unique femme du scrutin, Lala Meriem Mint Moulay Idriss, 57 ans, docteur en ingénierie civile. Coalisée au sein du Forum national pour la démocratie, une grande partie de l'opposition dite radicale conteste déjà les conditions d'organisation du vote et appelle au boycott. Arrivé au pouvoir par un coup de force en 2008, le général Ould Abdelaziz, président en exercice de l'Union africaine, avait été élu l'année suivante pour un premier mandat de 5 ans dans des conditions déjà contestées par l'opposition.
Législative en Afrique du Sud, le comptage des voix est en cours suite au scrutin de mercredi. L'ANC reste favori, d'autant qu'avec un peu plus de la moitié des votes dépouillés, le Congrès national africain semble en tête. Les tendances tout de suite avec Émilie Yob, la correspondante de la Voix de l'Amérique à Johannesburg.
L'ANC tiendrait à peu près 60% des votes, un peu plus en fait, qui est un résultat qui est plus ou moins similaire aux dernières élections. Et le parti d'opposition augmente un peu, mais sans toucher le résultat de l'ANC. Beaucoup d'observateurs pensaient que les scandales de corruption, de détournement de fonds publics auraient un impact sur le score du parti. Et visiblement, les Sud-Africains ont continué à voter massivement pour le parti de Nelson Mandela. En tout cas, la campagne de l'ANC a été vraiment de différencier le parti et le président Zuma, sur qui la plupart des scandales sont en fait concernés. Le parti a toujours dit Jacob Zuma, c'est Jacob Zuma. L'ANC a beaucoup fait et également c'est le parti de la libération. Donc à Johannesburg, il y a beaucoup de posters qui disent faites-le pour Madiba, cet héritage historique qui a beaucoup joué dans le vote pro-ANC. Aujourd'hui, il y a eu un petit incident dans un township où il y a eu des accusations de fraude. Mais la plupart des Sud-Africains vaquent à leurs occupations aujourd'hui et ne sont pas vraiment surpris par les résultats des élections.
Conflit sud-soudanais, le chef rebelle Riek Machar est arrivé à Addis Abeba pour s'entretenir avec le président Salva Kiir qui devrait le rejoindre demain en Éthiopie. Il s'agit des premiers pourparlers directs depuis le début des combats en décembre. Par ailleurs, il semble que des crimes contre l'humanité aient été commis au Soudan du Sud. C'est ce qu'indique ce jeudi la mission de l'ONU dans le pays.
En Centrafrique, arrivé ce soir à Bangui, de la première mission de la CPI pour une enquête préliminaire sur les crimes commis depuis 2012 dans le pays. Pendant ce temps, regain de tension dans la localité de Grimari, au centre-est du pays. Des hommes armés ont brûlé hier plusieurs villages. Par ailleurs, les leaders de l'ex-Séléka sont en congrès à Ndélé, dans le nord du pays. On fait le point avec Félix Yepassi Zembrou.
Selon Alain Coxis, président local de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme de Grimari, des hommes armés assimilés aux ex-Séléka ont mené des attaques dans plusieurs villages se trouvant à la périphérie de la ville.
Hier, sur l'axe Bango, à 30 km de Grimari, il y a eu des maisons qui ont été brûlées. Et sur l'axe Bakala, on a brûlé des maisons. Et dans les environs, il y a les Séléka et les peuples qui ont vraiment investi la brousse, les champs, les fermes, ce qui fait que la population s'est déplacée massivement au niveau de l'église catholique. Le nombre des déplacés a augmenté considérablement et ils ont des sérieux problèmes là.
Mais Ahmad Nejad, porte-parole du commandement des ex-Séléka de la préfecture de la Waka, a nié toute implication de ces éléments dans ces attaques. Par ailleurs, les généraux et officiers supérieurs de l'ancienne coalition Séléka ont commencé aujourd'hui un congrès à Ndélé dans le nord du pays. L'objectif est de mettre en place un nouvel état-major général et un comité de suivi chargé d'organiser une conférence pour voir comment contribuer au retour de la paix dans le pays.
Les réactions de la communauté internationale se multiplient suite à l'enlèvement de plus de 200 lycéennes au Nigeria le mois dernier. La première dame des États-Unis, Michelle Obama, et l'ancienne secrétaire d'État, Hillary Clinton, montent elles aussi au créneau, Nicolas.
Oui, Morgan, sur les médias sociaux, Madame Obama a posté une photo d'elle avec une pancarte sur laquelle elle adresse son soutien aux familles et leurs victimes. Madame Clinton, elle a exprimé son indignation lors d'une interview. Rappelons que 276 jeunes filles ont été enlevées de leurs écoles dans le nord du Nigeria, des raptes revendiqués par Boko Haram.
La première session plénière du Forum économique pour l'Afrique a démarré dans la capitale nigériane par une minute de silence en soutien aux familles. Pour le président nigérian, Goodluck Jonathan, cet acte de Boko Haram marque un tournant vers la fin du terrorisme islamiste.
Pourtant, lors de sa dernière attaque, Boko Haram, lundi dernier, à Gamburungala, une ville proche de la frontière camerounaise, plus d'une centaine de personnes ont été tuées. Un sénateur nigérian parle même de 300 morts, mais les hommes politiques sont souvent accusés de gonfler les bilans des victimes.
En Libye, insécurité persistante. Le chef des renseignements de l'Est libyen aurait été assassiné ce jeudi dans le centre de Benghazi. Le colonel Ibrahim al-Senoussi Akila aurait été tué par balle près du centre médical de Benghazi. Toujours en Libye, les rebelles autonomistes qui bloquent des sites pétroliers dans l'est du pays ont affirmé qu'ils ne reconnaissent pas le nouveau Premier ministre. L'élection controversée d'Ahmed Mittig est selon eux illégale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Il est 19h38, temps universel dans le reste du monde. Malgré les demandes de report de Vladimir Poutine, le président russe, les séparatistes pro-russes maintiennent le référendum dans l'est de l'Ukraine, Michel Joseph.
Le référendum aura lieu dimanche, comme prévu, dans les régions de Donetsk et Luhansk, ont assuré les représentants des séparatistes pro-russes. Il s'agit maintenant de savoir s'ils pourront organiser ces consultations sur les territoires concernés, car selon les sondages, 70% des habitants interrogés préfèrent rester ukrainiens. Intervenant hier au Kremlin, Vladimir Poutine avait déclaré que le report du référendum aiderait à créer les conditions propices à un dialogue entre les séparatistes et le gouvernement de Kiev. Son porte-parole avait par la suite dit que l'Ukraine devrait, en échange, arrêter ses opérations militaires contre les rebelles, ce qui a été rejeté par Kiev. Pour la première fois, M. Poutine a laissé entendre publiquement hier que la présidentielle du 25 mai était un pas dans la bonne direction. Quant au retrait annoncé des troupes russes massées à la frontière ukrainienne, la Maison-Blanche, le Pentagone et l'OTAN disent n'avoir détecté aucun mouvement de retrait.
Succès symbolique pour le régime syrien. Les derniers rebelles ont quitté Homs aujourd'hui, une ville que beaucoup considèrent comme la capitale de la révolution anti-Bachar al-Assad. Par ailleurs, un bâtiment historique a été le théâtre d'une explosion dans la vieille ville d'Alep. Il s'agit de l'hôtel Carlton, datant d'il y a 150 ans. Les rebelles sont pointus du doigt et d'après l'Associated Press, le Front islamique a revendiqué l'attaque.
Au moins 9 soldats pakistanais ont été tués dans une explosion dans le nord-ouest du pays. Plusieurs autres soldats voyageant dans le convoi ont été blessés. D'après les autorités, la bombe était placée en bordure d'une route dans le nord-waziristan, près de la frontière afghane, un bastion des talibans. L'attentat qui n'a pas été revendiqué intervient alors que les talibans pakistanais ont mis fin au cessez-le-feu avec le gouvernement.
Afghanistan, les forces internationales et les fonctionnaires de haut rang sont dans le viseur des talibans. Dans un communiqué publié sur le site internet, les talibans annoncent que leur offensive de printemps, nommée Khyber, débutera le 12 mai, Nicolas.
Oui, l'organisation islamiste indique que leurs attaques doivent infliger le maximum de pertes sur les envahisseurs, tout en évitant de causer des dégâts humains et financiers aux citoyens ordinaires. Des déclarations qui interviennent alors que les forces internationales de combat doivent terminer leur retrait d'Afghanistan d'ici la fin de l'année.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Au micro, Morgane Guiriac et Nicolas Pineau. Direction Kinshasa, la capitale congolaise, aussi appelée Kinmalebo, a perdu de sa superbe et se retrouve trop souvent plongée dans le noir, Nicolas.
La Société nationale d'électricité affirme que la situation va s'améliorer après la mise en service d'une deuxième ligne au mois de juin prochain. Bémol du côté du ministre des Ressources hydrauliques qui précise que le déficit ne sera pas comblé avant 2018. Cyril Milandou est le correspondant de La Voix de l'Amérique à Kinshasa. Voici son reportage.
Les problèmes de fourniture d'électricité continuent à se poser avec une grande intensité dans certains quartiers de Kinshasa, en témoignent ses habitants.
J'habite dans la commune de Kisenso, quartier Mbuku, mais jusque-là, il n'y a pas vraiment de changement. Vous pouvez faire tout un mois, le courant vient pendant 3 ou 4 jours, mais à la fin du mois, vous payez la facture comme il faut.
Quand la SNEL pouvait maintenant récupérer les factures, c'est le jour là où vous avez le courant durant une demi-journée. Là, ils viennent le matin pour demander qu'on puisse payer la facture.
Les responsables de la Société nationale d'électricité affirment que la situation pourrait changer après le mois de juin 2014 avec la mise en service de la deuxième ligne Inga Kinshasa. Eric Mbala.
2014, une année qui sera marquée par des événements important dans le secteur de l'électricité. D'abord, la deuxième ligne Inga Kinshasa qui va être achevée au mois de juin et donc qui va mettre fin à l'une des grandes causes des délestages de la ville de Kinshasa, à savoir la limitation de la quantité de puissance que Inga peut déverser dans la ville de Kinshasa. Et deuxièmement, nous voulons également annoncer à la population congolaise que durant cette année 2014, nous allons fiabiliser le transit de puissance entre Inga et Katanga, ce qui va nous permettre de pouvoir augmenter l'énergie que nous injectons au Katanga, aussi bien pour la population que pour l'industrie minière.
Par contre, le ministre des Ressources hydrauliques, Bruno Kapanji, affirme que Kinshasa vivra encore les déficits en électricité.
Nous sommes en train de faire une deuxième ligne. La ligne avance très bien. Même si elle arrive, nous aurons encore des déficits. Le programme est en cours de réhabilitation des centrales à Inga et cette opération ne se terminera pas avant 2017-2018. C'est-à-dire que nous allons encore vivre cette situation de déficit. Même si on terminait les 1400, nous aurons ici 800 plus 400 actuels, ça va faire 1200. Donc nous aurons encore des déficits ici à Kinshasa. Au Bas-Congo, pareil.
Des responsables de la Société nationale d'électricité soutiennent que Kinshasa connaît de sérieux problèmes en desserte électrique à cause de son extension. Et pourtant, plusieurs quartiers manquent d'électricité depuis de longues périodes. Kinshasa, Cyril Milando pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur Radio Soleil FM, fréquence verte, à Butembo, province orientale. La Voix de l'Amérique en RDC, sur Radio Télé Mwangaza, à Lubumbashi, province du Katanga. La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
On reste dans la région des Grands Lacs à Bujumbura où l'association burundaise des radiodiffuseurs vient d'organiser les premières assises des médias burundais. Pendant 2 jours, près de 80 participants ont débattu. L'occasion d'instaurer un dialogue.
Avec le gouvernement et les opérateurs économiques et les citoyens, tout de suite le reportage de notre correspondant Eric Manirakiza.
À la sortie des assises, le directeur de la Maison de la Presse trouve que la logique de confrontation, caractéristique des relations entre la presse publique et le gouvernement, a pris une tournure plus apaisée.
Actuellement, les médias et les pouvoirs publics se regardent en chien de faïence. C'était une occasion, en fait, non seulement de décrisper la situation, mais aussi de jeter un regard rétrospectif sur la façon dont les médias travaillent.
Sylvie Capitan, une chercheure dans le domaine des médias, et professeur à l'Université Paris 1 évoque les points forts de ces assises.
Un comité va être suivi justement, un comité pérenne de dialogue entre les autorités publiques et les médias, et donc pour essayer d'aplanir un certain nombre de points qui font débat, comme la loi sur la presse, mais aussi le système fiscal. Beaucoup de médias se plaignent du système fiscal, donc des négociations vont peut-être être faites, ou en tout cas débattues sur un système de fiscalité préférentiel pour les médias, comme ça existe dans plusieurs pays. Et les questions autour de l'accompagnement vers la révolution du numérique, les médias aussi ne sont pas très bien informés sur tout ce qui se passe, il y a des choix importants qui doivent se faire.
Le ministre de la Communication a appelé les médias à accepter d'être leurs propres critiques et non de vouloir chercher la poutre dans l'œil des pouvoirs publics. Tarsis Nienzabahidzi invite les médias à désenclaver l'information en privilégiant le monde rural oublié au profit de la ville.
Nous invitons certains médias à fournir des efforts en diversifiant leurs programmes, en donnant priorité aux activités de populations rurales, silencieuses, mais pourtant moteurs de développement.
L'audit des médias par les médias mené en 2013 a préconisé l'urgence de la tenue des premières assises des médias en vue de s'ouvrir et d'impliquer tous les acteurs pour répondre aux préoccupations de tout un chacun. Eric Manirakiza, Bujumbura, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Un premier cas de syndrome respiratoire du Moyen-Orient a été détecté pour la première fois au Liban. L'état du malade s'est amélioré, il a pu quitter l'hôpital. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministre libanais de la Santé. Et de son côté, l'Arabie Saoudite signale une vingtaine de nouveaux cas, Morgan.
Ce qui porte à presque 400 le nombre des personnes touchées par le coronavirus MERS, dont 111 sont morts depuis l'apparition de la maladie en 2012. L'Organisation mondiale de la santé a dépêché la semaine dernière une équipe à Djeddah. Camille Grodidier a joint pour des explications Tariq Jassarevitch de l'OMS.
La mission est allée à Djeddah, a visité les principaux hôpitaux de la ville et s'est rendu compte que, en fait, surtout une absence des mesures de contrôle et prévention des maladies infectieuses était la cause de la propagation du virus au sein des centres de santé et les hôpitaux. Parce qu'on s'est rendu compte que la transmission du virus était la plus importante dans les établissements de santé.
Les autorités sanitaires saoudiennes ont demandé à 5 firmes pharmaceutiques de collaborer pour essayer d'élaborer un vaccin.
Écoutez, ce qu'il faut d'urgence, en fait, c'est mener une étude approfondie sur les cas qu'on connaît. Donc, voir les gens donc, qui ont eu le virus, essayer de comprendre leur comportement, essayer de voir de quelle manière ils ont pu être exposés à des animaux, à un environnement, et essayer de tirer des conclusions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est d'accord, que ça doit être en fait la priorité, c'est donc de mener une étude comme ça pour essayer de voir vraiment où se trouve ce lien. Je crois que la seule manière vraiment de trouver ça, c'est des études approfondies, des cas connus. C'est aussi bien sûr important de voir dans le laboratoire examiner le virus, essayer de faire une séquence génétique, comprendre aussi s'il y a des changements, est-ce que le virus a muté. Mais encore une fois, ce qu'il nous faut surtout, c'est comprendre comment le virus est transmis vers l'homme à part de la source primaire.
Tariq Jassarevitch de l'Organisation mondiale de la santé. Brunei sous le feu des critiques. À Hollywood, le sultan de ce micro-état d'Asie du Sud-Est a courroucé les stars du cinéma après avoir imposé la charia le mois dernier dans son pays. La suite est racontée par Bagassi Koura.
La loi islamique imposée par le sultan Haji Hassan al-Bolkiah prévoit la peine de mort pour des cas d'adultère ou d'homosexualité à Brunei. Mais à des milliers de kilomètres en Californie, cette mesure a été très mal accueillie puisque le sultan a de gros investissements à Hollywood. Les autorités locales à Beverly Hills ont adopté une résolution cette semaine exigeant que le sultan vende ses parts dans l'hôtel Bel Air, mais aussi le célèbre Beverly Hills Hotel où l'élite hollywoodienne fait ses réservations. Lily Boss manifeste bruyamment devant cet hôtel.
Tonight, we are not being silent. We are standing for human rights.
Ce soir, nous ne resterons pas silencieuses. Nous sommes debout pour les droits humains, nous sommes debout pour la dignité et nous condamnons cela et défendons ceux qui n'ont pas de voix. Et c'est un honneur. Cet hôtel de luxe a ouvert ses portes en 1912, avant même qu'Hollywood ne devienne la capitale du cinéma. Il est maintenant détenu par un groupe d'investisseurs dirigé par le sultan Haji Hassan al-Bolkiah. Plusieurs célébrités d'Hollywood appellent au boycott de l'établissement. Le comédien Jay Leno affirme qu'il n'y a pas de débat ici, car ce n'est pas une question politique. Je veux dire qu'il n'y a rien d'extrême ici. Ce ne sont pas de folles féministes. Ce sont des femmes qui essaient simplement de protéger les autres femmes et des homosexuels qui protègent d'autres homosexuels. Je veux dire, je ne sais pas, Berlin 1933, cela semble-t-il si loin de ce qui s'est passé pendant la Shoah? Plusieurs entreprises de spectacle ont annulé des événements qui étaient prévus dans l'hôtel. Le sultan de Brunei n'a pas fait de commentaires, mais le chef du groupe d'investissement a qualifié d'injuste l'appel au boycott qui, selon lui, ne fera que nuire aux employés.
Savez-vous quel est le meilleur attaquant africain, Dembaba ou Samuel Eto'o? Quant à moi, je crois que Gervinho est meilleur que ces deux-là. Vous pensez que j'ai tort? Eh bien, dites-nous quelle est votre équipe All-Star 2014. Pour cela, sélectionnez un gardien, un défenseur, un milieu et un attaquant sur notre site, lavoixdelamérique.com. Le vote commence le 15 mai.
Et de Hollywood au terrain de sport, il n'y a qu'un pas, on retrouve Bagassi Koura. Bonsoir.
Oui, bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Allez, la Coupe du Monde dans une quarantaine de jours, on connaît le nom des 30 présélectionnés du Nigeria.
Stéphane Keshi a publié une liste provisoire de 30 noms, parmi lesquels figurent les 23 qui seront connus le 2 juin prochain pendant la tournée préparatoire, Nicolas, des Super Eagles ici en Amérique. Le capitaine Joseph Yobo, bien sûr, Joel Obi et Peter Osage Odemwingie effectuent un retour remarqué dans cette liste, après avoir été écarté de la sélection depuis plusieurs mois. 4 joueurs parmi les 30, Nicolas, sont des joueurs locaux.
Lesquels?
Il y a par exemple Akbim Chigozie.
Voilà, je faisais exprès, je tendais un piège. Prononciation pas facile, faut vous entraîner pour la Coupe du Monde, Bakassi. Allez, on connaît depuis hier le soir le nom du champion de France.
Oui, et c'est le Paris Saint-Germain qui a été officiellement...
Allez, on reprend le Paris Saint-Germain qui a évidemment été sacré champion au profit du match nul du numéro 2, Monaco contre Guingamp, un partout. Le PSG lui-même est tombé comme Bagassi. Le PSG est tombé hier soir face à Rennes 2-1 et dans la foulée, Laurent Blanc a prolongé son contrat
oui,
avec le club de la capitale.
Jusqu'en 2016.
Allez, on parle de la Fédération anglaise de football.
Oui, le président de la Fédération anglaise de football, Greg Dick, a dévoilé ce jeudi plusieurs propositions afin d'améliorer, Nicolas, le niveau de l'équipe nationale. L'une des mesures phares proposées propose donc de limiter à deux non-européens donc le nombre de joueurs par club de Premier League. Et dans les divisions inférieures, la Fédération anglaise souhaite que les clubs ne puissent pas en aligner aucun.
Allez, on parle de NBA, le championnat de basket nord-américain, la suite des playoffs.
Oui, hier soir à Indianapolis, les Pacers d'Indiana ont battu les Washington Wizards par 86 à 82. Les deux équipes, Nicolas, sont désormais à égalité, 2-2 dans cette demi-finale. Le prochain match aura lieu demain, ici même à Washington, et on espère gagner. Les Thunder à Oklahoma City ont battu hier soir également les Clippers de Los Angeles par 112 à 101.
Bagasikura qui n'a pas été éliminé par les fous rires. Merci beaucoup.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Du 12 juin au 13 juillet, retrouvez-moi tous les jours en direct du Brésil pour le journal de la Coupe du Monde. Les résultats, les coulisses et les à côté de cet événement planétaire. Matin et soir, la voix de l'Amérique à l'heure brésilienne pendant un mois. Sans oublier notre site internet www.lavoixdelamerique.com ou notre page Facebook. La Coupe du Monde, évidemment à suivre sur La Voix de l'Amérique.
Allez, on passe à la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. Le monde du zouk est en deuil aujourd'hui avec la disparition, bien sûr, d'Éric Bruta, auteur, compositeur et interprète. Son plus gros succès, Téléphone, fait indéniablement partie intégrante du patrimoine musical antillais. Je crois que Morgane, t'as connu cette chanson, non? Tu connais?
Oui, Téléphone, oui, je connais, mais bon, quand même, j'étais
T'étais trop jeune, n'est-ce pas?
J'ai pas beaucoup dansé sur ce morceau parce que...
Mais tu crois que tes parents ont dansé sur ce morceau?
J'imagine mon père, oui.
Ouais. Mais est-ce que tu connaissais un peu sur l'artiste? Tu connaissais l'artiste?
Bien sûr, mais c'est un nom connu. Donc évidemment, on connaît. Bon, ce sont des morceaux, je pense que tout le monde les a déjà entendus on est en Guadeloupe ou en Martinique.
Quoi. Exactement. Et je dois te dire, Morgane, qu'en Afrique, il est beaucoup, beaucoup aussi apprécié. Beaucoup d'amis ont aimé surtout ce morceau, Téléphone. Écoutons alors Téléphone.
Moi qui pense que vous fâchez, même si vous laissez moins temps, moi vous dois faire la java quand moi l'ai.
Vale.
semblerait quand même que le morceau qui vient de passer, ce n'est pas Téléphone.
Exactement. Désolé pour aujourd'hui, Morgane. Je vais vraiment te jouer Téléphone prochainement. Mm-hmm. Parce que Téléphone, c'est la chanson vraiment que je voulais que tu écoutes. Hein, et tous les amis qui ont beaucoup apprécié ce morceau. Il va beaucoup, beaucoup nous manquer. Eric Bruta, qui a démarré sa carrière musicale en 1977, batteur au sein d'un petit groupe de reggae nommé Smokey. Et voilà qu'on va vraiment, il va vraiment manquer à tous ces mélomanes.
Voilà, bah très bien, Roger Muntou, que vous retrouvez dans quelques instants dans le RM Show. Ainsi s'achève cette émission. Merci à la rédaction, Michel Joseph à la mise en onde. Et puis, c'était Morgane Guiriec et Nicolas Pinault. À demain.